Tout de suite, la revue de presse internationale 2, Camille Magnard, bonjour.
Bonjour.
On évoquait il y a quelques instants avec Claire Flauchel le mouvement pro-démocratie à Hong Kong. Vous continuez, je perds ma voix.
Ah oui, bah, on parlait de l'irruption justement de manifestants hier soir dans l'hémicycle du Parlement de Hong Kong. Il y a donc bien une tentation de la violence chez les jeunes Hongkongais et c'est cette tentation-là qu'analyse aujourd'hui The South China Morning Post. Selon sa journaliste Jeffy Lam, il y a une différence importante entre les scènes de chaos vues hier à Hong Kong et la révolution précédente, celle dite des parapluies en 2014 qui découlait du mouvement international Occupy, né aux États-Unis et fondamentalement, lui, non-violent. Cette différence, c'est qu'en 5 ans, de plus en plus de Hongkongais, nous dit-on, semblent avoir accepté l'idée que l'utilisation de la violence peut se justifier dans le combat contre la mise au pas par Pékin de l'ancienne colonie britannique. Il y aurait donc, au grand dam des leaders de la révolte de 2014, une nouvelle génération pour qui le seuil de la confrontation avec la police et l'ordre établi serait considérablement abaissé. En revoyant les images de manifestants d'hier enfonçant à coups de masse les vitres blindées du siège de l'administration régionale, Jeffy Lam se demande donc ce qui a bien pu se passer en 2 décennies à Hong Kong pour que le mouvement de défiance envers la Chine continentale toujours actif mais fondamentalement pacifique depuis ses origines, et cette fois accepter la violence comme une arme politique. Pour répondre à cette question, on interroge le docteur Fernando Cheung, l'un des meneurs donc de 2014, devenu député travailliste, qui a tenté hier sans succès de raisonner ses petits frères. Ces jeunes, dit-il, sont résignés, excédés, en particulier par l'inaction de la chef de l'exécutif hongkongais, Carrie Lam.
La différence entre les parapluies et les masques à mi-manière, ce serait donc l'avènement d'un pouvoir beaucoup plus ouvertement pro-Pékin qu'il y a 5 ans.
Et Fernando Cheung confirme aussi ce dont je vous parlais hier, que la vague naissante de suicides parmi les protestataires et la manière dont elle a été étouffée par l'exécutif, tout cela a achevé de révolter les foules jusque-là non violentes. Ça a fait monter le sens du sacrifice de nombreux manifestants qu'ils expriment non pas en sautant la vie, mais en la mettant en danger dans des actions violentes contre l'exécutif. Il y a enfin, semble comprendre le South China Morning Post, la conviction acquise à Hong Kong comme un peu partout ailleurs dans les jeunesses éduquées des pays occidentaux, la conviction acquise qu'il faut parfois franchir le seuil de la violence pour forcer le pouvoir politique à réagir, enfin à sortir de ses rails répressifs. On est là dans la culture politique des Black Blocs avec les mêmes slogans contre les violences policières et la même organisation dans le passage à l'acte. À Hong Kong comme à Paris et ailleurs, impossible de poser la question de la radicalisation des mobilisations sans évoquer celle des méthodes de maintien de l'ordre. Le mal est fait et cela pourrait prendre des décennies pour effacer tant de haine et d'incompréhension de part et d'autre, conclut le député travailliste de Hong Kong, Fernando Cheung.
Dans votre revue de presse internationale, Camille Magnard, en finir avec la violence comme arme politique, c'est aussi toute la question de l'accord de paix signé en 2016 entre les guerrieros des FARC et l'État colombien.
Et cet accord, il semble avoir du plomb dans l'aile, à lire ces deux articles que j'ai choisis pour vous, qui sont publiés coup sur coup par le quotidien El País dans son édition sud-américaine. On y apprend d'abord que l'ex-chef guerriero Jesús Santrich est porté disparu depuis dimanche. Santrich, c'est tout un symbole en Colombie. C'était le principal négociateur des accords de paix d'il y a donc 3 ans, des accords qui prévoyaient l'amnistie pour ceux qui auraient commis des crimes au nom des FARC, mais qui accepteraient de rendre les armes, de reconnaître leurs crimes et de dédommager leurs victimes. L'homme au kéfier et aux lunettes noires, Santrich, avait aussi incarné la transformation de la guérilla armée en parti politique. Il venait début juin d'être nommé député après avoir eu des démêlés avec la justice américaine qui demandait son extradition pour trafic de drogue. Oui, mais voilà, Jesús Santrich a donc disparu dimanche. Il a faussé compagnie à l'escorte censée assurer sa sécurité et sans doute un peu aussi sa surveillance.
Cette fuite, écrit El País, porte un très sérieux coup au processus de paix colombien.
Oui, car il y a fort à craindre que l'ancien chef des FARC ne soit parti rejoindre un groupe insurgent, un groupe dissident composé de centaines d'anciens guérilleros qui ont cru eux aussi un temps à la possibilité d'une réconciliation nationale mais ont rapidement déchanté et ont repris le maquis. Il faut dire que depuis son arrivée au pouvoir il y a un an, le président de droite de Colombie, Iván Duque, a clairement dit qu'il voulait remettre en cause les accords de paix et depuis, il n'a pas fait grand chose pour essayer de les sauver. Voilà qui nous amène au deuxième article colombien d'El País où l'on apprend que depuis 2016, plus de 100 anciens anciens combattants des FARC ont été assassinés. Le reportage qui leur est consacré évoque en particulier Anderson Pérez Osorio, 24 ans, père de famille, cinéaste et donc ex-guérillero. Il avait accepté de rendre les armes. Il disait avoir vécu comme une expérience très positive ce retour à la vie civile et à la fraternité nationale. Mais Anderson a été assassiné le 17 juin dans sa région d'El Cauca, victime, comme tant d'autres, nous dit le journaliste Santiago Torrado, de la violence qui menace à nouveau en Colombie les militants des droits sociaux, ceux des droits humains et à présent les anciens FARC, stigmatisés comme tels par le parti du président Duque. Cette stigmatisation a réveillé des rancœurs dans les campagnes meurtries par 50 années de conflits armés et les règlements de comptes ont commencé à se multiplier. Que reste-t-il dès lors des accords de paix de 2016 ? Un bain de sang, dénoncent les leaders du FARC, désormais devenu un parti politique, enfin quand ces leaders n'ont pas encore repris les armes.
Merci beaucoup Camille Magnard. Votre revue de presse est à retrouver sur franceculture.fr.